RFI Matin.
RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans un quart d'heure. Le point sur la proposition de Vladimir Poutine pour des négociations directes avec l'Ukraine jeudi prochain en Turquie. On appelle Jean-Didier Revoin à Moscou. Dans notre prochaine édition, on part aussi en Israël alors qu'hier le Hamas a diffusé une vidéo de deux otages vivants dans la bande de Gaza. Ils appellent à la fin de la guerre au moment où Benjamin Netanyahou veut renforcer l'offensive dans l'enclave palestinienne. Des manifestations ont à nouveau eu lieu hier, notamment tout près de la résidence du Premier ministre. On y sera avec Michel Paul. Mais d'abord, c'est une innovation qui fait débat. Nous sommes en Corée du Sud, où l'intelligence artificielle s'installe dans les écoles. La technologie, critiquée pour les dangers qu'elle représente, son impact écologique ou encore les biais qu'elle intègre à partir des données qui servent à l'entraîner. Mais depuis la rentrée du mois de mars 2025, un tiers des primaires et collèges du pays disposent de manuels scolaires numériques avec IA intégrée pour assister les professeurs dans leurs cours. Une innovation censée faciliter le travail de ses enseignants et améliorer les résultats scolaires, mais qui ne fait pas l'unanimité. Reportage à Séoul, c'est Lio Fioretti.
Après la sonnerie, la vingtaine d'élèves de cette classe de CM1 de la ville de Daegu rejoint sa salle de classe pour une heure de cours d'anglais. Pour pratiquer la langue de Shakespeare, pas de dialogue avec la professeure. Chaque élève sort ses écouteurs et parle à son écran.
On va pratiquer les expressions en utilisant l'IA, d'accord ?
À l'intérieur de la tablette, une intelligence artificielle qui discute avec l'enfant et analyse sa prononciation avant d'envoyer les résultats à l'enseignante. Désormais, en Corée du Sud, les cours de mathématiques, d'anglais et d'informatique de la primaire au collège sont assistés d'une intelligence artificielle qui évalue en temps réel les performances des élèves. Pour Lim Songa, professeur de mathématiques, cette innovation facilite le travail des enseignants.
Avant, je devais imprimer des documents et passer beaucoup de temps à corriger les élèves. Maintenant, l'intelligence artificielle corrige les exercices et gère l'évaluation. Il ne conçoit pas le cours à ma place. Il rend juste certaines choses plus pratiques et permet de suivre les résultats des élèves en temps réel.
En classe, les résultats des élèves sont affichés et comparés en temps réel sur le tableau. Une course à la performance dans un système scolaire déjà connu pour être extrêmement compétitif. Une approche de la pédagogie loin d'être partagée par la majorité du personnel éducatif. Kwon Jong-min est chercheuse à l'Université nationale de l'éducation à Séoul. Elle décrit un programme qui se fait au détriment des élèves.
Cela passe à côté de toutes les bases de la philosophie de l'éducation. Ce programme est pensé uniquement pour les résultats. Le problème, c'est que notre système éducatif doit permettre de former des étudiants à la pensée créative, à la pensée critique. Cette intelligence artificielle fait l'opposé.
Pour l'heure, seul un tiers des établissements ont choisi d'implémenter ce système. Le ministère de l'Éducation sud-coréen devra convaincre les professeurs réticents de transitionner vers l'intelligence artificielle au sein des classes. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Notre reportage international en Corée du Sud que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roel.
Et à la une de l'info ce matin, Vladimir Poutine propose des négociations directes et sans conditions préalables avec l'Ukraine. Déclaration hier dans la soirée du président russe qui donne même une idée de date et de lieu. Istanbul, en Turquie, jeudi prochain. C'est un premier mouvement, mais ce n'est pas suffisant, réagit Emmanuel Macron ce matin. Alors qu'hier, les alliés occidentaux ont mis sur la table un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours et des menaces de sanctions massives, Donald Trump dit lui qu'il compte continuer à travailler avec Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine. Sur un autre théâtre, une trêve fragile qui semble tenir entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays se sont malgré tout accusés mutuellement de violer ce cessez-le-feu dans ses premières heures. Hier, on fait le point avec Sonia Ghezali à Islamabad dans le prochain journal. Une nouvelle série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran. Les discussions se tiennent aujourd'hui à Oman, quelques jours avant la visite du président américain au Moyen-Orient. Donald Trump qui a réagi hier aux discussions en Suisse entre son secrétaire au Trésor et le vice-premier ministre chinois. Ils y abordent aujourd'hui encore les hausses de droits de douane enclenchées par l'administration américaine et auxquelles Pékin a répondu. De grands progrès ont été accomplis, dit Donald Trump, sans donner davantage de détails. Et puis les sports et le football en France. Angers assure son maintien en Ligue 1. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco seront directement qualifiés en Ligue des Champions. Côté espagnol, tout reste à jouer pour le titre en Liga, avec un classico crucial aujourd'hui. Le Barça et le Real Madrid se retrouvent pour la 4e fois de la saison. C'est à 14h15, temps universel. Et elle nous présente ses têtes d'affiche chaque dimanche sur RFI, les parcours de celles et ceux qui innovent et entreprennent sur le continent africain. Denise Epoté de TV5 Monde est au téléphone de Mathis Slimano.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Mathis Slimano.
Votre première tête d'affiche est un jeune écologiste originaire de Sierra Leone. À 17 ans, Alhaji Siraj Ba a fondé Ruxal Trading, une alternative aux combustibles à base de bois pour lutter contre la déforestation à l'origine des coulées de boue qui ont endeuillé la capitale du pays.
Seul rescapé d'une coulée de boue qui a décimé en 2017 des milliers de personnes à Freetown, dont 7 membres de sa famille adoptive, Alhaji Siraj Ba décide de comprendre les raisons environnementales qui conduisent à de tels drames. Avec ses $20 d'économie, il lance Ruxal Trading, une entreprise de fabrication de combustible à base de déchets de noix de coco qui conjugue innovation et durabilité. En luttant contre la déforestation et contribuant à une meilleure gestion des déchets dans la capitale. C'est sur YouTube que le jeune entrepreneur a appris à produire des briquettes sans fumée et qui se consument durant 4 heures. Auprès des agriculteurs, Alhaji Siraj Ba collecte des coques de noix de coco, des déchets de canne à sucre, de riz et de palmiste qu'il broie et qu'il lie avec de l'amidon. L'entreprise produit également des sacs en papier biodégradables à base de feuilles de bananier pour lutter contre la pollution des sachets en plastique. La production des 25 000 sacs écologiques et des 12 000 tonnes de briquettes ont permis de sauver 15 000 arbres. Mais elle a surtout protégé la santé de millions de femmes qui n'ont pas inhalé de fumée toxique en cuisinant au feu de bois.
Votre seconde tête d'affiche est, elle, originaire du Kenya. Leslie Mbogo possède une vaste expérience en ingénierie et en gestion de produits et services technologiques de pointe. Elle est titulaire d'un MBA obtenu à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'un master en informatique du Rensselaer Polytechnic Institute. Gobega, la plateforme qu'elle a cofondée, renforce l'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement des services publics non canalisés.
De retour au Kenya, Leslie Mbogo et son associé Peter Ndiangui ont été frappés par le fait que l'accès aux services publics de base, le gaz et l'eau, était non seulement peu pratique mais souvent dangereux. Ils ont vu des familles transporter de lourdes bouteilles de gaz et des bidons d'eau en prenant des risques inutiles. Gobega est donc né avec une vision audacieuse, faire en sorte qu'un million de familles africaines puissent vivre sans craindre des explosions de gaz et les défis quotidiens de l'accès à l'eau. Principale plateforme offrant un accès fiable et pratique aux services publics, Gobega se consacre en particulier sur les femmes, elles qui au quotidien gèrent les ménages. La plateforme dessert des milliers de foyers au Kenya, livrant les services essentiels comme le gaz et l'eau directement à leur porte. L'impact va au-delà de la commodité et de la tranquillité d'esprit pour les familles issues de la classe moyenne qui vivent désormais sans crainte. Gobega a permis la création de 30 emplois dont 85% sont occupés par des femmes.
Denise Epoté sur RFI avec Mathis Slimano. Et dans notre reportage Afrique ce matin, la mémoire et l'héritage de l'un des plus grands écrivains francophones de l'histoire de la littérature africaine, l'Ivoirien Amadou Kourouma, décédé en 2003, auteur engagé du Soleil des Indépendances, récompensé aussi par le prix Renaudot en 2000 pour son roman « Allah n'est pas obligé ». Une exposition lui rend hommage aujourd'hui à Abidjan à travers les créations d'artistes contemporains inspiré par son œuvre, c'est à voir au Centre d'art historique du Plateau, la Rotonde, et Marine Janin nous y emmène. Reportage.
Les visiteurs sont accueillis dans la Rotonde par les yeux pénétrants d'Amadou Kourouma, un grand portrait de James Kokobi en noir et blanc qui représente l'écrivain, la tête posée sur sa main, fixant le spectateur du regard.
Dans le creux de la main, je crois qu'il disait, dans le creux de la main, on se repose et on apprend beaucoup. C'est un grand personnage pour moi. Ouais. Pour moi, fait partie du patrimoine culturel de Côte d'Ivoire. Quand vous approchez le portrait, là, il n'y a pas de peinture, c'est juste gratté, sur du papier noir, au couteau. Donc c'est un travail archéologique que j'ai fait.
En plus des photos d'archives, des coupures de journaux et d'extraits de ses textes, l'exposition met en scène une quinzaine d'œuvres présentées par un casting prestigieux, où figurent notamment les peintres Aboudia et Yandzi ou le sculpteur Salif Diabagaté. Les participants ont reçu des extraits de livres de Kuruma et ont été invités à s'en inspirer pour créer leurs propres œuvres. Pascal Conan, artiste plasticien, signe ainsi la toile Les couleurs des indépendances, en référence au premier roman de Kuruma, Les soleils des indépendances.
Ce livre fait quand même une lecture des moments et des temps coloniaux. Et donc dans la toile, il y a une grande répartition du bleu, du blanc et du rouge pour montrer la domination du pays colonisateur. Et puis ensuite, le jaune qui symbolise le soleil d'Afrique vient pour dire qu'en Afrique, il y a eu des gens qui sont battus. Nous, on a essayé quand même de résumer cela en image, parce qu'on estime qu'une image vaut mille mots.
Il peut sembler paradoxal de rendre hommage à un écrivain avec une exposition d'art plastique, mais le directeur de la Rotonde, Yacouba Konaté, dit croire qu'aucune discipline ne peut vivre en autarcie.
Amadou Kourouma, c'est un ami. J'ai vu l'immense travail qu'il mettait pour construire ses textes, les produire, les peaufiner, vraiment. C'est un orfèvre. Donc, je me suis promis de faire un événement sur lui, puisque je suis moi, une universitaire qui considère que les arts visuels ont un impact, une efficacité de communication plus fort que la littérature au sens ordinaire du terme.
Une initiative saluée par la veuve de l'écrivain Christiane Kuruma, qui se réjouit de voir son œuvre toujours célébrée 22 ans après sa mort.
Je vis avec lui encore jour et nuit. Je lis encore ses livres, je lis encore tout ce qu'on a pu écrire sur lui. On m'en parle beaucoup, Pour moi, il est toujours là. Tout ce que je vois ici, toutes ces photos, je les connais par cœur.
L'exposition Inspiration Kuruma restera visible à la Rotonde jusqu'au 21 mai. Marine Janin, Abidjan, RFI.
L'exposition Inspiration Kuruma. Et à Abidjan, il est bientôt 7h. Bientôt 9h à Paris, avant le retour de l'info sur RFI, 100% création nous parle à nouveau du Palais Garnier. À Paris, l'opéra emblématique qui fête ses 150 ans cette année. On réécoute un autre épisode de cette série à la découverte aujourd'hui de l'atelier des costumes de l'opéra. Maria Afonso.
Apprentissage, découverte, tentative, expérience, voilà. Donc ça reste toujours très heureux.
Autodidacte, Bernard Conan se dirigeait vers la mode. À 19 ans, il rencontre une compagnie qui monte des formes lyriques et qui cherche un costumier. Embarqué dans cette aventure, pour lui, c'est une découverte. Après un long parcours dans cette compagnie et quelques étapes intermédiaires, il frappe à l'Opéra de Paris et les portes s'ouvrent. Il y travaille depuis 30 ans, conscient du cadre exceptionnel de ce quotidien à part, mais avec des obligations tout autant.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui sont la sécurité. On a des activités très variées. À la teinture, il y a quand même de l'eau bouillante. On soude, donc il y a aussi la flamme, il y a quelques produits dangereux, donc on a des équipements qui sont utilisés, qui n'étaient peut-être pas le cas il y a 30 ans par exemple. On est très très sensibilisé à la sécurité, on est aussi très sensibilisé au budget. Il y a un cadre très strict en termes de temps, de planification et de mesure du travail vraiment, et de la production. Il y a beaucoup de services dans une maison comme l'Opéra, et on est quand même d'abord au service des ateliers de couture, c'est-à-dire que nous on travaille en amont, on teint les tissus, on les peint, on les imprime. Il y a un échange, on est très à l'écoute de leur temps de production, on doit répondre à des attentes. Et après aussi avec les autres services et aussi avec les artistes du ballet.
Pour Bernard Conan, la première contrainte, c'est le danseur, l'artiste. Et les éléments décoratifs du costume ne doivent pas être un poids.
Si on fait un bijou, on va faire attention d'utiliser des matériaux très légers. On ne va pas partir sur des grosses parures métalliques. Les choses peut-être les plus étonnantes, c'est de la corde de guitare qu'on a détournée, qui est un matériau très léger, très flexible, très facile, qui permet de créer des structures très aériennes. C'est un bijou de tête, on est vraiment dans la Renaissance italienne, puisque c'est Roméo Juliette, avec des perles, et une pointe qui est réalisée en corde de guitare. Ça aurait pu être de la corde à piano, qui est extrêmement utilisée aussi. Et après, l'inventaire est impossible, ça dépend vraiment des esthétiques de chaque spectacle. Nous, ici, à Garnier, on est quand même sur une boîte noire dans laquelle on envoie de la lumière. Effectivement, les éléments accrochent la lumière et se mettent à prendre vie, à briller. Après, c'est une question de proportion. Nous, on travaille effectivement sur la distance, sur la perception.
Retrouvez Bernard Conan, responsable de l'atelier décoration de costumes de l'Opéra de Paris sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Maria Afonso pour 100% création. Bientôt 7h donc en temps universel. L'info revient dans une minute sur RFI. À tout de suite.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM. Saint-Laurent, 98.7 FM.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Les frontières africaines et leurs origines, vaste et sensible sujet que je vous propose d'explorer. Que signifie frontière dans les langues africaines? Et comment se les représentait-on? La fameuse conférence de Berlin a-t-elle décidé des tracés actuels? Voyage au cœur des mythes tenaces pour établir la suprématie des faits.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
Radio Foot International. Émission spéciale, prix Marc-Vivien Fauré. Annie Gasnier.
Ils ne sont plus que trois potentiels vainqueurs. Habib Diarra, le Sénégalais, du RC Strasbourg. Evan Guessant, l'Ivoirien, de l'OGC Nice. Et Achraf Hakimi, le Marocain, du PSG. Et ce lundi sera dévoilé le nom du lauréat 2025.
Radio Foot International.
Du lundi au vendredi, à partir de 16h10 TU.
RFI.